France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
Dans la campagne présidentielle longtemps sans relief, un des 12 candidats du premier tour s'est taillé un succès en faisant de la consommation de viande et de vin un étendard. C'est le candidat communiste Fabien Roussel. Il est passé pour un ringard auprès d'une partie de l'opinion. Il en a conforté, voire rassuré, une autre partie. Dans un pays que l'on présente de plus en plus comme un archipel dont les différentes communautés ont du mal à entrer en contact, la nourriture est un excellent fil rouge pour dire d'où nous venons et ce que nous sommes devenus. Dans « Dis-moi ce que tu manges, une histoire de la France à table », le documentariste et journaliste Jean-Louis André, reporter notamment pour le magazine Saveur, retrace notre histoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Il brosse un tableau éminemment politique de notre rapport à la bouffe à 6 jours du second tour. Qu'est-ce que l'évolution de ce rapport? De viande presque tous les repas au succès du vegan, des premiers hypermarchés au phénomène locavore. Qu'est-ce que cela raconte de notre pays? Vos questions, je les attends au 01 45 24 7000 et via l'appli France Inter. Bonjour Jean-Louis André.
Bonjour.
D'où venons-nous? C'est le point de départ de votre livre et c'est important de le rappeler. Sorti de la Seconde Guerre mondiale, il y a des tickets de rationnement sur le sucre, le café et le pain qui ne disparaissent qu'en 1949. On vient d'un monde qui a manqué de nourriture pendant la guerre.
On vient d'un monde qui a manqué, effectivement, et du coup, l'abondance, voilà. Bien manger, c'est beaucoup manger. Et l'abondance, c'est ce qui fait notre retour aux fameux jours heureux qu'on a évoqués il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, à un moment, bien manger, la quantité prime sur la, j'allais dire pratiquement sur la qualité, mais la qualité en réalité ne se pose pas vraiment parce que la nourriture elle est là, elle est dans un rapport immédiat, c'est les marchés, c'est, on n'est pas dans de, l'agroalimentaire joue très peu son rôle de, d'intermédiaire, donc on est dans un rapport assez simple et assez facile à la bouffe. Et là, on choisit, on goûte.
Ouais. Et la viande, hein, le 1951-52, il y a plein de détails dans votre livre. Il existe un défilé du bœuf gras à Paris. La consommation de viande, elle passe de 42 kilos par an par personne en 1925 à 80 kilos en 74. Au fond, les 30 glorieuses, on pourrait les rebaptiser les 30 viandardes.
Oui, effectivement, c'est ça. C'est d'ailleurs, il y a une très belle mythologie de Roland Barthes, ouais. Hein, sur le steak frites, qui dit le steak frites, c'est une mythologie, c'est-à-dire une icône de l'identité française. C'est l'idée du sang, de la chair. Moi, je m'en souviens, hein, quand j'étais petit, on me faisait manger un steak tous les jours, en me disant, au moins, ça te fait des forces, quoi. Enfin, ouais. Et ça, on l'a tous dans notre mémoire. C'est en ça que c'est intéressant. C'est que c'est très difficile de se passer à notre régime parce que on a ça dans nos mémoires. Plus tu manges de la viande, plus tu vas être fort, mon grand.
Et la campagne publique suivait le bœuf et le vin à table aussi. Et le rôle des pouvoirs publics, on se souvient de la campagne de Mendès France avec le lait, c'est de nourrir et de nourrir beaucoup.
Et c'est de nourrir beaucoup. Et ouais. Effectivement, et le rôle des pouvoirs publics, ce sont d'abord des pouvoirs publics nourriciers. On voit avec le vin, on le voit avec la viande, on le voit avec le blé aussi. Dès que le blé manque, c'est à l'État qu'on s'en prend.
Et la bouffe est au milieu de la ville, si j'ose dire, le cours Julien à Marseille, les abattoirs de la Villette et le marché des Halles à Paris. Alors on va voir ce qui va changer dans les années suivantes, mais je voudrais prendre un premier appel. Bonjour Sarah.
Bonjour.
C'est une Anglaise qui nous appelle pour parler de notre rapport à la nourriture. Soyez la bienvenue Sarah.
Merci. Voilà, en effet, je vais essayer d'être rapide, même si j'aurais eu beaucoup de choses à dire en fait. Moi, ça fait plus de 30 ans que j'habite en France maintenant. Ouais. Dans une région où on mange bien, en Auvergne, à Aurillac. Et ce que j'ai remarqué en 30 ans, c'est la place du repas dans la vie des Français qui, malgré tout, devient de moins en moins important, ouais. À savoir les pauses midi qui sont réduites, ce qui fait que cette formule entrée, plat, dessert, qui maintenait un équilibre alimentaire, je trouve, moi, se perd et ne permet pas, notamment aux jeunes générations, de prendre plaisir à manger. C'est vite fait. La vinaigrette n'est plus faite maison. Elle est dans des bidons que l'on sert à la cantine quand on ne peut pas rentrer chez soi. Oui. Et c'était surtout ça que je voulais signaler.
C'est bien noté et ça recoupe ce que nous dit Karine sur l'appli. La différence dans les repas, plus d'entrée, sauf quand j'invite mes parents ou mes beaux-parents, et un apéro plus copieux. Est-ce que vous validez ça, Jean-Louis André?
Oui, mais moins qu'ailleurs, moins que dans d'autres pays, oui. Quand même. On reste quand même en tête pour la convivialité associée au plaisir de manger. Mais oui, c'est vrai que ça correspond à des modes de vie différents. On a moins de temps, on y consacre moins de temps. Mais en même temps, nous gardons une culture qui est une culture dans laquelle on aime en parler. Et ça, c'est très important. Au-delà du bien manger, on aime parler de bien manger. C'est ce qui fait peut-être notre vraie différence vis-à-vis d'autres pays.
Alors, les années, les 30 Glorieuses, c'est aussi l'arrivée des congélateurs, des réfrigérateurs, c'est l'arrivée du téflon à la place de la fonte. Rendez-vous compte, madame, on peut préparer un bœuf bourguignon en moins de 2 heures. Le féminisme a évolué depuis. Et puis, je voulais insister sur un point, parce qu'il me semble que c'est très politique. Les hypermarchés, le premier hyper, c'est à Sainte-Geneviève-des-Bois en 63. Il y a eu les Leclerc avant. Et le paysage se transforme parallèlement au fond. Il faut les remplir, ces hyper, et vous dites que la Bretagne devient la plus grande charcuterie de France, en quelque sorte.
Ben, c'est vrai, c'est là qu'on produit effectivement l'ensemble la plus grande partie de, on peut toujours dire l'Auvergne, la charcuterie d'Auvergne, mais ce que mangent concrètement les Français à l'époque des Trente Glorieuses, c'est le cochon qui va venir de Bretagne. Oui. Bon. Et effectivement, je pense que ça va ensemble au fond, l'urbanisme, c'est-à-dire la montée des grands ensembles et la transformation du commerce qui passe en hypermarché et finalement la transformation du monde agricole. L'un ne va pas sans l'autre. C'est parce que les gens se déplacent qu'il faut des lieux pour les nourrir. C'est parce que ces lieux sont de plus en plus importants qu'il faut créer ce qu'on appellera plus tard des filières. C'est-à-dire non plus des petits producteurs associés, mais des filières qui remontent le processus depuis la bête jusqu'à la poêle.
Et voilà, c'est ça. Et du coup, l'agroalimentaire, vous disiez en 45, la question se pose pas. Là, l'agroalimentaire arrive avec les marques. Et on parlait du repas qui se réduit un petit peu en durée. Vous rappelez le slogan Orangina en 1972, secouez-moi, tout s'accélère, au fond, comme si c'était un art de vivre, secouez-moi.
Oui, et en même temps, cet agroalimentaire, il faut bien voir une chose, c'est qu'il est dans les années 70, jusque dans les années 80, l'agroalimentaire est perçu comme un progrès. Oui. Hein, un peu comme, là encore, si on refait le parallèle avec les grands ensembles, c'est un progrès par rapport à un habitat, qui est en question d'un progrès par rapport à un habitat de centre-ville plutôt vétuste. Là, l'agroalimentaire, ça permet d'être sûr, d'avoir des dates, les premières DLC vont apparaître, oui. Ça permet de savoir
de
à peu près par... Ouais, d'un limite de consommation, de savoir d'où vient le produit. Par exemple, on n'aurait jamais mangé avant les années 50. C'est pas un hasard si on invente le magret de canard saignant, si on l'invente dans les années 50, avec André Daguin qui invente ça. C'est parce qu'avant, on peut pas manger le canard parce qu'il est élevé dans la basse-cour, comme ça, et qu'on n'est pas très sûr de son élevage. Mmh. On peut aujourd'hui imaginer manger un tartare de cochon. C'était impossible il y a 30 ans parce qu'on se disait, on va attraper le ver solitaire et les pires fièvres du monde.
Et alors, il y a une part de mythes et d'histoires qu'on réécrit, parce que vous citez notamment l'ouvrage de Bourdieu, La Distinction, qui paraît en 79 sur le thème « Toute la France mange à sa faim ». Ben non, toute la France ne mange pas à sa faim. Il y a cette phrase que je trouve géniale. « Pourquoi le poisson est l'apanage des classes aisées ? C'est une question de mastication. Le poisson se mange doucement en triant les arêtes avec les dents de devant. » Voilà, la nourriture est aussi affaire de classe sociale.
Affaire de distinction et de positionnement, voilà. Sur une classe sociale. C'est-à-dire que Bourdieu va plus loin, il dit même les poissonniers, même les pêcheurs par exemple, lorsqu'ils se retrouvent un jour de fête, ne veulent pas manger de la viande, ne veulent pas manger du poisson, pas parce que ils en sont lassés, non, parce que faire la fête, c'est manger avec les dents derrière, c'est manger comme un homme.
Ouais.
Y aller, quoi. Mordre à belles dents et non pas chipoter.
Alors, il y a un point de bascule et puis on va entendre un nouvel auditeur. Deux dates. 1974, René Dumont entre en campagne, premier candidat écologiste, en buvant un simple verre d'eau. Et à peu près à la même époque, 75, un décret du ministère de l'Agriculture établit la liste des additifs autorisés. Et moi, je vois dans la coïncidence de ces deux dates un basculement des questions qui arrivent sur notre façon de nous nourrir et de cultiver notre nourriture.
Absolument, c'est le doute qui s'insinue en avant et qui ne va plus cesser de croître jusqu'à devenir plus qu'un doute, une peur, les grandes peurs alimentaires. Le doute s'insinue dans ces années-là avec cette liste, la fameuse liste des E, des additifs E qui font peur à tout le monde. René Dumont, effectivement. Et puis je pense aussi quand même la mort de Pompidou, qui était un bon vivant et qui tout d'un coup, en pleine gloire, j'allais dire, est emporté par une maladie dont on connaît mal les ressorts, qui est le cancer, et on se dit oula. ça c'est la science, ça c'est tout ce qu'ils nous font, tout ce qu'ils nous font qui est pas bien. C'est un peu comme envoyer les gens sur dans la lune, quoi. C'est un truc et c'est peut-être que c'est pas si sain que ça. C'est le premier doute sur la science de l'après-guerre.
Et aujourd'hui les scandales alimentaires. Raphaël nous appelle de la Réunion. Bonjour Raphaël. Ah, Raphaël n'est pas disponible. Les scandales alimentaires aujourd'hui, Jean-Louis André, quel regard portez-vous sur ces scandales alimentaires?
À la fois, il révèle effectivement un malaise autour de notre assiette, mais en même temps, il révèle aussi, il faut bien le dire aussi, un progrès par rapport à notre assiette. S'il y a scandale, c'est qu'on a levé les affaires, c'est qu'on en fait une publicité, c'est qu'on les rend publics. Donc, en même temps, il y a eu un progrès sur le contrôle de ce qu'on mange. Je pense qu'au fond, on mange plutôt mieux aujourd'hui que ce qu'on mangeait il y a 30 ans. Ça me paraît... 30 ans, moi, je descendais de mon lycée et sur la Canebière à Marseille, et il y avait un pauvre vendeur de hamburgers gras, pas bon, aujourd'hui, notamment pour le fast-food, le fameux fast-food tant décrié, il y a eu un progrès énorme. Il y a plein d'offres de fast-food qui peuvent être très saines, de qualité, etc.
On a retrouvé Raphaël qui nous appelle de La Réunion. Bonjour Raphaël.
Oui, bonjour France Inter, bonjour monsieur. Donc, oui, bonjour. Moi je voulais intervenir... pour vous dire que nous, à La Réunion, c'est tout à fait l'inverse de la métropole. C'est que pendant des années, nous mangeons, on va dire, du 100% presque bio. Et à partir des années 80 et le développement des hypermarchés, on a commencé à faire venir pas mal de produits d'extérieurs à bas coût, ce qui fait que avec la stagnation, diminution des salaires, les gens sont partis dessus. Et puis, surtout à cause des nouvelles constructions, parce que là, on a développé ce qu'on appelle des logements en hauteur, et ce qui fait que les gens partaient plus dans les grandes surfaces. Oui. Et on s'est rendu compte à un moment donné que ça avait un impact sur la santé, surtout sur le diabète de type 2. Mais heureusement pour nous, quelque part, le coronavirus est passé par là, parce qu'avec la fermeture de tous les magasins et tout, les Réunionnais se sont rendus compte que le circuit court était quelque chose de très intéressant, d'abord parce que c'était moins cher pour le porte-monnaie de certaines fois, premièrement, et deuxièmement, meilleur pour la santé. Donc, voilà, oui. Meilleur pour la santé. Donc, du coup, ces derniers temps, on assiste à un revirement de situation où les gens préfèrent se référer au circuit court, à l'agriculture biologique, à l'agriculture raisonnée, que de repartir via les grandes surfaces.
Au supermarché. Merci Raphaël pour ce témoignage. Alors il y a plein de choses. La nourriture santé aujourd'hui, Jean-Louis André.
Oui, la nourriture santé, c'est-à-dire que dis-moi ce que tu manges, dis-moi ce que tu es, c'est vraiment au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'on a la sensation aujourd'hui que ce qu'on mange nous constitue, c'est notre chair. Donc on est extrêmement
attentif.
Dépité, Oui, attentif et dépité si on se sent trahi. Donc effectivement, c'est une grosse tendance.
Et cette notion d'archipel que j'évoquais dans l'introduction et que vous évoquez vous aussi dans le livre, au fond, on se définit de plus en plus par la façon dont on mange et il y a de moins en moins de ponts entre les différentes communautés, si j'ose dire.
Exactement. Alors, dans les années 50, c'est la nourriture a été prise comme une manière de le repas français, c'était une manière de se retrouver. C'était un des éléments de la France unie, gaullienne, du mythe résistentialiste, etc. On avait tous fait la guerre ensemble, et on l'avait gagné ensemble, et on allait tous se retrouver, reconstruire un grand pays ensemble. C'était déjà un peu un mythe, il faut bien avouer. Comme cette table était déjà unie, et cette grande table et familiale était déjà un peu un mythe. Mais aujourd'hui, effectivement, la nourriture est investie de nos grandes peurs, de nos interrogations, de nos doutes, et du coup aussi de nos idéologies politiques. Et nous avons, d'un côté, ceux qui vont manger vegan, ceux qui vont manger cru, ceux qui vont manger halal, ceux qui vont manger, etc. Donc, toute la question, c'est est-ce que malgré tout, on peut se réunir autour d'une table? Mais c'est au fond toute la question. qui est posée à la société française. Est-ce que dans cette diversité, elle peut se reconstruire et s'inventer une nouvelle identité ou pas? Enfin, c'est toute la question qui aujourd'hui fait débat.
Et vous écrivez que nous sommes seuls devant nos assiettes, ce que je trouve terrible.
Oui, nous sommes de plus en plus seuls. Mais quand même, pour donner un élément d'espoir.
Allons-y.
Quand on est dans les, moi j'aime bien les food courts, vous savez, dans les, en Asie, qui sont des espèces de lieux, de cours comme ça, autour duquel il y a différents stand de cuisine de rue, il y a celui qui fait du riz, celui qui fait des sushis, etc. Et on a ça en Singapour, on a ça en Afrique du Sud, on a ça dans tous les pays un peu modernes, comme ça, émergents. Et ça n'empêche pas qu'au milieu, il y a une grande table et que tout le monde va se servir, prend son assiette, celui qui aime plutôt ça, plutôt ça, plutôt ça. Puis quand même, au bout du compte, on finit par s'asseoir à une table commune et on partage un repas. Donc peut-être qu'on va en arriver là aussi, c'est pas grave. Peut-être qu'on va tous se retrouver.
Et peut-être que du coup, on peut se retrouver aussi autour des différentes nourritures du monde qu'on trouve désormais à chaque coin de rue.
Et ça, c'est merveilleux. Et c'est différent. Vous voyez, la mode des nourritures du monde, c'était les années 80. Il y avait des restaurants, le Spoon de Ducasse, qui collectionnait les saveurs des différents pays du monde. Aujourd'hui, c'est plus exactement ça. On ne cherche pas à aller chercher, à faire tellement un repas totalement thaï ou totalement chinois, etc. On va papillonner, on va aller zapper, on va aller prendre une saveur ici, un piment ici, un produit ici. Et tout ça, ça fait une cuisine personnelle et non pas une cuisine de terroir, fût-il lointain ou de l'étranger. Et ça, c'est assez joli, je trouve, cette manière qu'on a de réinventer aujourd'hui une cuisine à nous.
À la carte, au fond. Merci beaucoup, Jean-Louis. André, dis-moi ce que tu manges. Une histoire de la France à table, c'est publié chez Odile Jacob, 13h46.